RCF. Il est 7h30, on retrouve Lucie Rispal pour le journal de la rédaction de RCF. Bonjour Lucie.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
Emmanuel Macron attendu ce soir pour un discours sur l'Europe.
Discours qui permette au président d'entrer dans la campagne pour les élections européennes, vous l'entendrez. Au chapitre santé, on observe un rebond du nombre de méningites en France depuis le Covid. À l'approche des JO, certains médecins alertent quant à sa prolifération. Malgré le contexte économique marqué par l'inflation, les Français sont 51% à avoir fait au moins un don en 2023. Un chiffre en hausse selon la Fondation des apprentis d'Auteuil qui dévoile son baromètre ce matin.
Emmanuel Macron sera à l'université de la Sorbonne, non pas ce soir mais bien ce matin, c'est à 11h, pour prononcer un discours sur l'Europe.
Une sorte d'acte 2 après le discours de 2017 où il avait détaillé son projet pour une souveraineté européenne renforcée, notamment sur les thèmes de la sécurité, des migrations, de l'écologie ou encore du numérique. Mais cette prise de parole est aussi une façon pour Emmanuel Macron d'entrer officiellement dans la campagne pour les élections européennes, Suzanne Marion.
Même si son entourage s'en défend, ce discours sera l'occasion de mettre la lumière sur le projet européen du président et donc de la liste Renaissance. Un coup de pouce bienvenu alors que la liste de Valérie Ayer est distancée par celle de Jordan Bardella. Selon les derniers sondages, le Rassemblement national récolte environ 30% des intentions de vote alors que Renaissance se situe entre 16 et 18%. Face au manque de notoriété de Valérie Ayer, ce discours pourrait relancer la dynamique du camp présidentiel. D'ailleurs, les oppositions demandent à l'ARCOM que l'allocution soit prise en compte dans le temps de parole de sa liste. Sur le contenu du discours, on sait peu de choses. Le président a seulement précisé qu'il donnera un peu le cap de ce que le pays a fait et ce vers quoi nous allons, surtout pour les années à venir. Il devrait évoquer son engagement pour une Europe plus souveraine et plus puissante, mais aussi les transitions vertes et numériques de l'Union européenne.
L'actualité internationale, c'est Israël qui affirme avoir lancé une action offensive sur le sud du Liban. Elle dit également avancer à Gaza dans ses préparatifs pour une opération terrestre sur Rafah. Sur le front nord d'Israël, l'armée a dit hier que son action offensive concernait tout le sud du Liban. Elle a précisé que son aviation et artillerie avaient déjà frappé 40 cibles du Hezbollah libanais, l'allié du Hamas. C'est un investissement dans notre propre sécurité, a déclaré Joe Biden hier après avoir promulgué un vaste plan d'assistance à l'Ukraine. Le président américain a promis un premier envoi massif d'armement pour une valeur d'$1 milliard dans les heures qui viennent à l'Ukraine. La loi qui prévoit $61 milliards d'aide militaire et économique pour Kiev compte renforcer la sécurité de l'Amérique et la sécurité du monde, c'est ce qu'a estimé le président américain. Et puis la consommation d'alcool et de cigarettes électroniques chez les 11-15 ans est alarmante selon un rapport de la branche européenne de l'OMS qui préconise des mesures de santé publique pour limiter l'accès aux boissons alcoolisées.
En France, les représentants des cultes ont été auditionnés hier à l'Assemblée nationale par la commission spéciale sur le projet de loi fin de vie.
Unanimes, ils ont tous alerté sur les conséquences d'une aide à mourir qui risque d'ouvrir à l'euthanasie et au suicide assisté. Tous ont appelé au développement des soins palliatifs par la loi Claeys-Leonetti mal appliquée. Les responsables religieux se sont interrogés sur un texte qui, selon eux, va à l'encontre du modèle français, dénonçant une rupture de civilisation. Parmi les grands sujets débattus hier, la question de l'accompagnement des personnes en fin de vie par leur famille. Monseigneur Pierre Dornelas, responsable du groupe de travail bioéthique de la Conférence des évêques de France.
Normalement, selon la loi, le personnel soignant doit aussi accompagner les familles. Or, bien souvent, ils n'en ont pas les moyens, ils n'en ont pas le temps. Donc les familles ne sont pas accompagnées. Donc on ne leur explique pas ce qui se passe pour leurs proches qui est en train d'être soigné, accompagné. Et ainsi, la souffrance des familles n'est pas accompagnée. On a noté que 20% des patients en France sont entourés d'une famille ou entourés de proches. Donc il y a 80% qui sont isolés. Et ça, c'est vraiment un drame. Et il me semble que cet accompagnement des personnes isolées, de pouvoir permettre à ces personnes que leurs proches puissent venir, il me semble qu'il y a là un vrai défi de tout le processus de santé et d'accompagnement en France. Comment on peut fortifier cet accompagnement pour que les patients ne soient pas isolés?
Le texte sera débattu en séance publique à partir du 27 mai. Tout autre chose, malgré un accord de dernière minute avec un syndicat d'aiguilleurs du ciel français et un préavis de grève levé, le trafic aérien s'annonce tout de même perturbé en France et donc par ricochet en Europe. Plus de 2000 vols en Europe ont été supprimés et 1000 risquent de devoir se dérouter pour éviter l'espace aérien français. 3 vols sur 4 seront supprimés au départ ou à l'arrivée de Paris-Orly, 55% à Roissy-Charles de Gaulle, 65% à Marseille et 45% sur tous les autres aéroports de France métropolitaine. Le distributeur français Casino, qui a changé de main fin mars, prévoit lui de réduire ses effectifs de 1300 à 3200 postes. Le siège historique du groupe conserverait à Saint-Étienne un peu plus de 1000 postes sur les 1500 actuels, c'est ce qu'a précisé Casino, qui dispose aussi de sièges en région parisienne.
Au chapitre santé, on observe un rebond du nombre de méningites en France depuis le Covid.
Si 298 cas avaient été enregistrés entre janvier et septembre 2019, ce sont 421 cas qui ont été répertoriés entre janvier et septembre de l'année dernière. Cela représente une augmentation de 36%. La méningite, pour rappel, est une inflammation des tissus qui entourent le cerveau ainsi que la moelle épinière. Elle peut être mortelle et nécessite des soins médicaux immédiats. En 2022, selon Santé publique France, 10% de décès ont été rapportés parmi les cas de méningite à méningocoque. Les associations de patients et les spécialistes veulent donc sensibiliser le grand public sur les risques et demandent aux autorités sanitaires de mettre à jour les recommandations vaccinales notamment. Le professeur Mohamed Kerta, qui travaille à l'Institut Pasteur à l'unité des infections bactériennes invasives, prévient « Pendant les JO, il faudra faire attention à la propagation de la maladie. » Écoutez-le.
Il faudra savoir que les rassemblements de masse, d'une façon générale, c'est un facteur de risque avéré des méningites à méningocoque. Donc il y a forcément des mesures qu'on doit prendre et on doit se préparer à des éventuels cas. Effectivement, quand on prend l'histoire, il y a eu souvent, dans les cas de rassemblement de ce type-là, des cas d'infection invasive à méningocoque et de méningite à méningocoque avec un potentiel épidémique. Il y a donc un risque, effectivement, et pour cela, il va falloir évaluer ce risque-là et vraisemblablement prendre des mesures pour réduire ce risque.
La Fondation Apprenti d'Auteuil dévoile ce matin son 5e baromètre de la solidarité sur les dons aux associations réalisés par Ipsos.
Malgré le contexte économique marqué par l'inflation, les Français sont 51% à avoir fait au moins un don l'année dernière, c'est en légère hausse. Mais le montant des dons a également augmenté de plus de 11%. Un constat qui rassure Stéphane Dauge, le directeur de la communication et de la collecte à la Fondation Apprenti d'Auteuil.
Là où l'année dernière, les Français nous indiquaient que dans un contexte où l'inflation était autour de 5%, ils craignaient de ne pas pouvoir exprimer leur générosité comme ils le souhaiteraient en 2023. Là, quand on les interroge sur le montant moyen des dons qu'ils ont pu effectuer au cours de l'année 2023, on s'aperçoit qu'il y a une augmentation puisqu'ils nous annoncent avoir donné en moyenne 371 euros en 2023, ce qui représente plus 11% par rapport à 2022. Donc vraiment, le grand enseignement, c'est que l'impact de l'inflation sur leur pouvoir d'achat, avec une inflation qui, même si elle est toujours autour de 2,5%, n'a pas totalement bridé leur générosité.
C'est 7h38, 37e rencontre internationale de cerfs-volants de Berck-sur-Mer.
C'est jusqu'à dimanche, près d'un million de personnes ont fait le déplacement dans la capitale mondiale du cerf-volant. Des cerfs-volistes de 25 pays font des démonstrations et certains participent à la première World Kite Cup, c'est une coupe des nations, soit l'équivalent des JO du cerf-volant. Benoît Flamand, cerf-voliste champion du monde et membre de l'équipe de France, nous explique comment il a conçu ce ballet chorégraphique orchestré durant la compétition. On l'écoute au micro de Anne-Henri.
L'Asie, comme on le sait, est un continent de cerfs-volants, et notamment la Chine, que nous avons voulu mettre à l'honneur, parce que c'est quand même un peu là-bas que le cerf-volant est né. Voilà, donc ils sont venus avec une grosse délégation, on fabrique des cerfs-volants sur place. Oh, bah, le week-end, ils sont venus avec un bus, donc il y avait 45 personnes. Voilà, c'est assez impressionnant, il y a une délégation de Weifang qui est arrivée, en sachant quand même ce qui est impressionnant, c'est qu'en ce moment a lieu le festival de Weifang, de cerfs-volants. Voilà, le Weifang est la capitale chinoise du cerf-volant. Ici, c'est la capitale mondiale du cerf-volant, à pas confondre. Et vous voyez, il y a une délégation de Weifang qui est venue ici. Donc, et qui n'a pas été au festival de Weifang.
Et Pierre-Hugues, est-ce que vous êtes déjà allé à Berck pour voir les cerfs-volants ?
Ah, jamais, mais à Saint-Malo, beaucoup. J'aime
Alors,
beaucoup les cerfs-volants.
Je vous conseille d'aller à Berck-sur-Mer, je l'ai déjà fait.
C'est vrai ?
C'est magnifique, plein de couleurs dans le ciel et de la bonne bière également.
Êtes-vous, Lucie, une bonne cerfs-voliste ?
Pas trop. Je sais manier un petit peu, mais...
Vous m'avez appris un mot en tout cas ce matin, et c'est pour ça que je suis désolé, j'ai un petit éclat de rire. Cerfs-voliste, on en sait un peu plus sur les cerfs-volants grâce à vous et grâce à Anne-Henri. Merci, Lucie Espagne.